Chapitre 9. Claire serait rentrée vers 9 heures ce soir-là, après une journée harassante. Elle aurait découvert André étendu de tout son long sur le parquet, le crâne à moitié éclaté après une balle dans la gorge. Du sang, il y en avait partout, jusque sur le plafond. Une scène horrible qui me mit l'estomac au bord des lèvres. Quand nous sommes arrivés, Odiane et moi, Claire avait le regard d'une hystérique au milieu d'une crise. L'appartement était plein de policiers qui s'apprêtaient à envelopper le corps d'André. Claire, tremblante, rayonnait la déchéance morale. Elle me tendit un papier maculé sur lequel je lus « Adieu, Simon m'a trahi pour ce morveux de Belleville. » Vous allez le payer tous. D'ailleurs, je vous hais. » Ainsi était achevée cette triste aventure. Odiane me murmura qu'elle avait très peur pour Claire, qui ne méritait pas ça. J'ai chuchoté à Odiane que pour abandonner, chacun avait son style. Je préférais le sien, il est vrai. « Oh, s'il vous plaît, ne soyez pas cynique. » Les parents Pierrard furent tellement abattus par cette horreur que la mère d'André en devint aphasique et à moitié paralysée. Je n'avais pas soupçonné une tragédie d'une telle ampleur. J'ai demandé un congé de 2 mois afin de prendre Claire chez moi. Ainsi, j'avais à la maison le soin paternel des 2 enfants d'Adrien. Je me suis gardé de lui écrire afin de le mettre au courant, et j'en ai dissuadé Odiane, à qui j'ai encore refusé de donner toute adresse. Je crois qu'elle voulait profiter de cette occasion pour faire revenir Adrien. Pendant tout le premier mois que Claire resta auprès de moi, elle fut en un état de prostration. Je ne parle pas du mal que j'ai eu à la faire se nourrir un peu. Dans l'automatisme d'un demi-délire, elle se prenait à répéter « Quel salaud, mais quel salaud !» Pour la tirer de là, il ne fallait que du temps et une patience angélique, des insomnies que je ne compte plus. Le moindre bruit me faisait sursauter. Je lui avais installé une chambre tout contre la mienne, et je ne dénombre pas les nuits que j'ai passées dans un fauteuil à son chevet. Mon amitié pour Adrien devenait de l'héroïsme, mais je n'en ai pas une trace de regret. Ma société eut l'exceptionnelle gentillesse de me confier des travaux que je pouvais accomplir sans déplacement, et je garde pour mon directeur commercial une reconnaissance qu'il sait bien. Henri Pierrard vendit l'appartement qu'il avait acheté pour les jeunes mariés, et l'on comprend aisément que Claire n'ait jamais voulu y retourner. Il fallut près de 10 mois pour que Claire reprenne sa santé et recommence à sortir. Je repris aussi mes voyages d'affaires et elle m'y accompagna. Au moment du malheureux accident, Yves avait obtenu brillamment son bac scientifique et dès que je repartis pour mes tournées en compagnie de sa sœur, il était de nouveau interne en hypotope au lycée Saint-Louis. Avec moi, Claire se détendit beaucoup. Pendant que j'allais à mes rendez-vous, elle se distrayait à visiter les villes de Suisse, d'Allemagne, de tout le Benelux, et pendant nos déjeuners, nos dîners, je la vis plus gaie, reprenant goût à la vie. Elle décida de photographier, préparait nos départs, s'occupait à 1000 détails auxquels je n'aurais pas prêté attention. Ensuite, nous sommes partis ensemble passer une 15aine au Maroc, pendant qu'Yves était chez des amis en Bretagne. Claire se baigna sur les plages d'Agadir, voulut apprendre le tennis. Elle aima de plus en plus nos sorties nocturnes, toujours différentes, soit dans les restaurants qu'on appelle faussement typiques, soit des petits spectacles réservés aux touristes. Nous faisions de longues promenades dans les campagnes, mais sa préférence allait à nos veillées très tardives sur la terrasse de notre hôtel. Nous y parlions très peu, et je respectais son désir de silence, voire de recueillement. « Je vous dois tant, Balloul, me dit-elle, en une de ses veillées. Mais non, ma grande fille, tu sais que je me suis occupé de toi comme je l'ai pu. Pouvais-je te laisser dans ta misère? Tu es la fille de mon meilleur ami. Je t'ai aidé par devoir, mais surtout par affection. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté quand je te laissais entendre que tu avais une autre voie à suivre, un autre homme à qui donner le meilleur de toi-même? C'est du passé, Balou, n'en parlons plus, vous voulez bien? Nous étions étendus sur des chaises de repos, et sous la nuit, nous regardions les étoiles s'en aller vers l'Occident. Dans la contemplation du mouvement apparemment immuable des aiguilles lointaines de lumière, mon regard se perdait souvent en direction de l'Atlantique, où le soleil, à 16 heures, devait briller encore. Malgré l'ordinaire de ma situation, j'y voyais de l'absurde traversé d'un certain bonheur. Je m'amusais à voir le choc incompréhensible entre l'amour, la mort, la nature, la fuite du temps, parmi les constellations où courait l'indigo des nuits d'Afrique. Éternel retour de l'inexplicable énergie luttant pour se perpétuer dans une incompressible transparence. Le diaphane de l'infini se répand comme par jeu dans un déterminé qui défie l'intelligence. Pureté jaunâtre d'Aldébaran, énorme, qui se superposait par moments à la bouillie d'une cervelle autrefois pensante, puis traversée d'une parcelle aveugle de laiton, une jeune femme tigrée par un sang perdu de folie et de désamour. Que ferais-je, moi, dans le théâtre d'une vie sombre qui ne sait pas où elle va? J'aime fumer un cigare en regardant la nuit, et cette nuit marocaine, pure, limpide, je l'imaginais ailleurs avec Adrien, plus voilée, plus laiteuse, humide aussi. J'étais au milieu de ce songe lorsque Claire abandonna dans la mienne sa main que j'ai prise afin de lui faire sentir le possible repos d'une âme trop éprouvée. Elle s'assoupit alors comme pour provoquer la surgescence d'un passé qui aurait pu être différent, mais qui, dans sa réalité de l'instant, était un présent heureux de s'arrêter à lui-même. On entendait la refluente rupture des vagues sur les sables de l'océan et le chuintement glissé sous l'écume des dieux. L'esprit rentre alors dans ses profondeurs et cherche les octaves de son harmonie, pénètre dans le narcissisme de son espace. Aucun lieu pour le regret ni les délires. Seule l'expansion du rêve l'empêche d'étouffer et de trop subir que pousse en lui la fleur de son vieillissement. Pâli sous le frisson indécis de la voie lactée, Claire avait une respiration régulière et paisible, et sa main de jeune femme naguère meurtrie, que la souffrance avait creusée, la rendait plus réelle dans ma main. Elle avait le visage légèrement tourné vers moi, et sur ses paupières fermées, ses cils enrobaient un autre regard, plus maître de lui-même. Vers 1 heure du matin, je la vis s'éveiller comme un mirage silencieux. J'ai alors éprouvé comme une peur secrète, l'idée qu'en arrière-plan de ses yeux, nimbés d'une nuit bleutée, pouvait se lever un avenir où je ne serais plus. La blancheur ovale de son visage me rendit plus fragile encore un passé que j'avais connu, et la présence d'une Claire plus ancienne me devenait à la fois étrangère et nouvelle au milieu de mes songes nocturnes. Les traits de cette figure rêveuse et douce portaient les messages d'un Adrien qui me disait au travers de sa fille: « Mamie, je suis là, mais c'est une autre forme de moi que tu vois. » Et je reprochais à Adrien de s'en être allé quelque part jouir de sa paix ou crever de chagrin à cause de la sottise d'une femme. Au milieu de sa vie, cette Diane étrange n'avait su lui offrir que le désert de l'amour, la pire soif qu'un homme puisse affronter. Où était Diane à cette heure? Pourquoi Diane avait-elle traversé ma route un soir que j'étais passé chez Adrien? Pourquoi Claire aujourd'hui? Et moi, ballotté dans une existence plate, qui crois savoir bêtement ce que demain sera, à quelle relation je serrerai une poignée que l'argent sculpte, ou l'ambition parmi ses transpirations et ses inavouables replis. Avant la première fraîcheur picotée par les yeux pointus des étoiles, j'ai mis un plaid sur les épaules de Claire et je l'ai reconduite dans sa chambre. Dans l'âtre obscurité de la pièce, j'ai entrouvert la baie pour qu'elle dorme avec un peu du bon vent. Balou, je me sens mieux. C'est bon de respirer le sucre acide que les insectes tirent derrière eux, de sentir qu'en moi des ferments appellent la vie, les essences, de mâcher l'épaisseur des parfums. Avec vous, Balou, je n'ai plus la tête bien solide ce soir. Allons, demain, tu sais, je viendrai te réveiller un peu avant le petit déjeuner. Je te montrerai ce que signifie le soleil. La lumière est un bonheur aisé à notre taille, un petit truc qui ne met de justification en aucun mot. Allons, bonne nuit. C'est vous, dit-elle vivement en ne voulant pas que je m'éloigne d'elle. C'est vous qui tout à l'heure me racontiez l'histoire de la mort et de la transfiguration d'Orion? Oui, Claire, image de la nuit, c'était moi. Dans ma main, je parlais à ta main, où tant de mes souvenirs se sont un moment reposés. Ta main faisait revivre à la mienne des passés délavés à la manière de vieilles aquarelles. La grande nébuleuse d'Andromède était pour moi ton reflet. Et puis je me disais que nos solitudes sont peuplées de monstres. Nous déjeunions vers 9 heures et, dès nos toilettes achevées, nous partions marcher sur les plages. À 1 heure, nouvelle marche, quelques promenades au souk, dîner, encore des marches silencieuses au milieu de la nuit, retour à l'hôtel vers 10 heures. La terrasse, bavardage incessant où elle me dit et redit 1000 fois qu'elle ne s'était jamais confiée à personne, que j'étais le premier à l'écouter, que jeune, entre les soins de grands-parents qui se forçaient de mercenaires mal payés, d'une Diane distante, elle avait passé ses plus tendres années dans l'inquiétude ou la peur de déplaire, dans l'absence de bras affectueux, sinon de simple douceur. En novembre suivant, elle avait enfin installé son cabinet médical, boulevard Voltaire. J'avais obtenu tous les prêts nécessaires et lui avais donné quelques fonds personnels qu'elle se promit de me rendre malgré mes protestations. Mon travail me tenait éloigné d'elle, mais tous les dimanches, nous avions le plaisir de nous retrouver, tantôt chez moi, tantôt j'allais la rejoindre à Paris, ce qu'elle préférait à cause de la présence d'Yves. Chaque fois qu'elle le put, elle voulut encore m'accompagner dans des voyages qui ne devaient pas dépasser 1 semaine. Nous partions toujours par le train pour que je puisse y travailler. Très vite, son cabinet devint connu. Je la crus sauvée par le travail énorme qu'elle accomplissait et les sympathies nombreuses qu'elle s'attira car elle savait conquérir les passions autrement que par sa seule compétence. Elle amassa les amitiés sincères, sans l'indécis qu'introduit la reconnaissance, et je lui ai parfois reproché de se laisser submerger par les patients pauvres à qui elle demandait peu ou pas d'honoraires. Tout le quartier de la République était à elle. Avant de monter à son appartement, il m'arrivait d'aller prendre un petit noir dans un des bistrots du boulevard, et il n'était pas rare d'y entendre chanter les louanges du docteur Barberolle. On sait que Claire avait une constitution fragile, et malgré les rares vacances qu'elle prit avec moi grâce à nos voyages, tout ce travail accumulé fut à l'origine d'une nouvelle dépression. 1 an et demi, en effet, après le suicide d'André Pierrard, toutes les apparences de la réussite étaient pour elle et je m'en réjouissais profondément. Pourtant, j'eus à subir de plus en plus de manifestations de cette dépression qui passèrent à l'agression déclarée. Nos rencontres s'espacèrent et Claire eut de nouvelles périodes de prostration. Elle se déclarait absente, fermait le cabinet sans raison avouée, se gorgeait de somnifères. Peut-être ai-je eu tort de ne pas chercher des causes apparemment nouvelles et profondes de son état. Autant j'avais été curieux de la vie d'Adrien, autant à l'égard de Claire, j'avais été très circonspect à cause d'un passé récent et fort agité dont elle avait été la victime. Il n'est pas bon de fouiller dans les personnes qui souffrent, seraient-elles essentielles à notre vie. Elle m'accusa de la laisser tomber. Je m'y étais attendu, mais je n'attachais pas l'importance excessive à des propos qui sentaient de loin une déraison passagère et guérissable. L'inquiétude m'habita cependant, et un soir je ne pus me retenir d'en parler à Odiane. Cette erreur s'avéra sans gravité par la suite, heureusement. Or, quelques jours après, Odiane se rendit chez Claire pour la première fois afin de lui donner des conseils et de lui apporter quelques apaisements. J'ignore aujourd'hui encore quelle fut la teneur de leur entretien. J'avais demandé à Odiane cette démarche dans l'espoir qu'une mère, bien qu'adoptive et peu affectueuse, interviendrait plus habilement que moi, analyserait avec plus de pénétration ses comportements qui me tourmentaient beaucoup. Quand je la revis chez Adrien une quinzaine passée, elle me dit avec une indignation révoltée que Claire avait fait éclater une scène très violente sans reculer devant l'insulte ni la grossièreté. Elle s'était retirée prudemment à constater les proportions que sa visite avait prise, mais quelques jours n'avaient pas suffi qu'elle avait reçu de Claire une lettre dans laquelle la fille d'Adrien répandait sa haine, voire son dégoût, pour une femme à qui elle n'avait pu donner, je cite, le saint nom de mère, une femme qui avait enfoncé entre la fille et le père les clous du malheur, qui avait manqué à tous ses devoirs, renié son fils, incapable non seulement d'aimer mais de respecter les gens. Même Balou, que vous haïssiez parce qu'il vous a donné, à notre défaut, d'intenante affection d'un étranger pour qui l'amitié a un sens qui dépasse l'amour, deux sentiments qui vous échappent sans la moindre nuance. Quand Odiane me donna connaissance de cette lettre, je fus très éprouvé à entendre son contenu truffé d'injustice. Certes, Odiane avait commis force bévue ou maladresse, mais n'était pas allée jusqu'à des monstruosités. Là s'étalait la douleur née d'une éducation absente ou manquée, les privations de la tendresse maternelle. La voix de la souffrance y criait ses aversions, et la fosse d'une gorge trop longtemps solitaire y râlait une sorte d'agonie. Le mot de haine n'est pas juste pour signifier cette turbulence dans une vie que j'avais pensé rendre moins malheureuse. Devant l'avalanche d'accusations qui viraient à la férocité, devant un procès qui ne pardonnait ni un geste ni un coup d'œil, Odiane sut garder une tenue qui ne s'apparentait ni à la pitié ni à l'impatience. C'était le découragement dans la dignité. J'en ai éprouvé de la gêne, autant au sujet de Claire que vis-à-vis d'Odiane. « Mais monsieur, me dit-elle, je n'avais pas à vouloir être sa mère. C'était ridicule et menteur. D'ailleurs, je ne me suis jamais senti mère, ni pendant mon unique grossesse, ni après. Pour Claire, vous pensez bien. Selon moi, ce rôle faussement biologique était une chute. Pour Adrien, je l'ai voulu, et c'est pour cela que j'ai été enceinte d'Yves. J'ai compris la chose comme naturelle, puisque j'aimais Adrien et désirais lui faire ce cadeau. Mais vous savez cela, je me répète sous le coup de l'émotion. Une chose est sûre, c'est que je n'aurais pas recommencé, encore moins avec un autre que lui. J'ai eu beau m'amuser d'autres hommes, je les savais passagers. La plupart d'entre eux avaient leur vie. Je dis la plupart, comme si j'en avais possédé tant et tant. Avec ces autres, je n'aurais pas eu en tout passé les 10 ans que j'ai passés avec Adrien. Dieu m'en garde. Ils ont été pour moi un chemin d'éclectisme dans le corps, une participation au grand pan, sans lequel la conscience de vivre ne pouvait naître en moi. Je considère qu'Yves a été une expérience de la maternité. Savoir suffit. J'ai aimé cet enfant pour ce qu'il était, en tant que personne issue d'Adrien et de moi, de notre enlacement charnel, mais non pour la connaissance que j'acquérais de la vie profonde et assumée dans sa totalité. En ce sens, il m'a empoisonné la vie, sans m'accomplir du tout. Être mère n'a été pour moi ni un moyen ni une fin, encore moins une justification de mon sexe. Mais si je n'avais pas eu d'enfant, je ne m'en serais pas senti pour autant une femme tronquée, stérile, honteuse, de conduire une existence ratée. Je rejette ces femmes fécondes et bibliques que leur utérus honore. Au contraire, grosse, je me suis vue laide, atteinte dans mon intégrité physique, abîmée. Ce cadeau que j'ai voulu faire à Adrien m'a fait perdre une grande part de ma personnalité. Bon, je ne vous comprends pas, car enfin Yves a été une révélation, puisque vous l'avez aimé au moins pour ce que, dites-vous. Ah, si vous finissez sur mes contradictions apparentes, nous n'avons pas fini. Non, je ne cherche pas à comprendre la vie, la disséquer, l'interpréter. Je veux la vivre, c'est tout, pas l'expliquer. Ce genre d'exercice est byzantin, je m'y refuse. Vous cherchez à savoir, vous, moi pas. Vous allez bientôt parvenir à me faire croire que vous ressemblez à Adrien. Ça m'étonnerait guère, puisque vous vous dites sans cesse son ami. Il faut des points communs pour en arriver là, non? Il vous en fallut avoir avec lui. Une femme ne vit pas plusieurs années avec un homme sans avoir avec lui quelque ressemblance. Pas du tout. À la vérité, c'est dans les débuts que nous nous ressemblions, ou plutôt que je l'ai cru. C'est sûrement pour cela que je l'ai aimé et qu'il ne m'est pas indifférent au moment où je parle, et que souvent il me manque. Le problème est que je ne l'aime plus, mais qu'il m'est nécessaire. Si c'est un paradoxe, tant pis. Vous allez sûrement me dire que j'en suis presque arrivé aux conditions exigées pour un bon mariage. Il me manque non parce que je l'aime, parce qu'il est l'homme de toute ma vie, comme Swann épouse Odette quand ils n'ont plus rien à se dire. Seule condition sociale de la réussite d'un couple, non? Roman. Peut-être. Il avait beau prétendre qu'il refusait l'analyse du sentiment de la vie, qu'il préférait aimer tout court, le plus byzantin des deux, c'était lui, et de loin. Assurer qu'on aime la vie au point de la compliquer me dépasse. C'est ainsi que je vois Adrien. Oh, si je vous semble tortueuse en cela, je ne sais plus quoi vous dire. Si je le suis, c'est dans une toute autre perspective. La sensation par et pour elle-même. Chez lui, c'était la sensation par et pour l'idée qu'il s'en faisait a priori, ou qu'il voulait en récolter. Si seulement il s'était laissé aller à mon amour, sans vouloir le contrôler, sans avoir dans ses peines et ses plaisirs aussi une fin secrète. Je n'ai pas ce besoin de domination dialectique qui annihile toute pureté du bonheur. Vouloir qu'une attente antérieure se recrée dans la réalité est une sottise, à l'origine de fortes déceptions. Chez Claire, c'est la même chose. Ses sensations relèvent du discours, elle est machiavélique. Je la sens capable de se faire plaindre pour que vous alliez vers elle. Au lieu de la nécessité de vie, elle veut qu'on soit d'une façon qui lui convienne et la rassure. Comme son père, elle fait faire une précréation lente des êtres et si vous n'êtes pas comme elle vous a inventé, gare à vous. Dès qu'une personne ne se calque pas sur le schéma préétabli, sa déconvenue l'entraîne dans la dépression nerveuse. Ce fut le cas avec André Pierrard. Oh, je plains son prochain amant. Moi, je suis parti d'auprès d'Adrien parce que mon désamour reposait sur l'assurance que j'avais d'un amour dévoyé. Il m'aimait infiniment moins que ce qu'il avait dit ou protesté. Le mariage n'aurait rien changé à cette époque entre lui et moi. Nous aurions divorcé. Rester impossible. Quant à Claire, si elle croit que ses injures peuvent lui payer une rançon à tirer de moi parce qu'elle a subi une déception achevée dans le sang, elle se fait des illusions. Oh, je ne l'accuse pas. Si son père s'est suicidé, lui aussi, car nous n'avons plus de nouvelles de lui, n'est-ce pas? Non, il est vivant. Hors de France, mais il est vivant. Enfin, il l'était il y a 3 mois, aux dernières nouvelles. Bon, peu importe. Quoique cela m'ennuie, parce que son geste est idiot. Revenons à André. Cette fois, c'est du spectacle. Et comme il a dû faire des répétitions, il en a éprouvé une rare et ultime jouissance. Parfait. Moi, je ne suis pas contre une intelligence qui barbouille de caillots les murs et les carpettes. Mais Claire, si elle en veut aussi, elle sartera les rangs des Barberolles. Vous voyez, en l'occurrence, que j'ai du respect pour le suicide quand il se pratique par amour, ou plutôt quand on veut le faire croire. Tous les jours, on en parle au palais. Si un candidat veut ainsi faire son petit joujou, je me refuse à l'en dissuader. Au moins, une fois dans sa vie, il aura été à même de prendre enfin une décision, avec ses suites, des suites surtout pour les autres. Oh, je vous demande pardon, madame, mais je crois que la colère vous égare et vous me décevez dans votre jugement sur Claire. Bon, je la connais comme si je l'avais faite. Nouvelle erreur, madame. Lorsqu'André Pierrard s'est suicidé, Claire était toujours vierge. Excusez-moi de vous surprendre, mais si Adrien n'était pas avare de discours, effectivement, il peut vous arriver à vous aussi de tenir des propos. Je disais ces derniers mots lorsqu'on sonna. Je me suis levé pour suivre Diane jusque dans l'entrée. Elle ouvrit. Claire découpa l'ombre de la nuit presque tombée. Elle avait le visage mat et blanc et sous ses yeux des cernes grisâtres, la bouche tirée. Comme si Odiane n'avait pas été présente, elle me regarda et s'avança vers moi sans un bonsoir. Non, elle semblait venir comme ça, pour rien, pour entrer dans la maison de son père. On aurait dit qu'à part sa douleur contrainte de voir Odiane dans cette maison, rien ne se passait en elle, qu'elle n'avait pas eu d'altercation avec Odiane, qu'elle ne lui avait pas écrit, que les choses de la vie continuaient pour elle leur train. Cette arrivée ne me surprenait pas. Peut-être était-elle d'abord passée chez moi, puis nous avait aperçus derrière les vitres du salon, en observant depuis la rue. Elle n'eut aucun égard, aucun mot pour Diane. Elle me dit brusquement « Balou, je crois que je vous dérange. Moi, oh non, pas du tout. Je vous demande ça parce que la garce de mon père est venue ici avec vous. Au fait, vous êtes peut-être amoureux d'elle. Depuis la rue, vos conciliabules vont paraître suspects. Un beau couple, n'empêche. » Claire passa devant Diane, qui resta si outrée qu'elle n'eut pas l'idée de répliquer. Un peu plus loin, elle se retourna, la salua très bas par évidente dérision. Diane me regarda comme pétrifiée. Elle et moi avons emboîté le pas de Claire qui entra dans le salon. « Alors, on cause, reprit-elle, de tout et de rien. On vit du sang des autres, on se l'entresuce pour être bien certain que chacun aura sa part du boudin. Aux oignons, à la crème. Mais après, on en fera son venin. Mes pauvres enfants, mais le sang, vous n'en avez jamais vu la couleur. Vous savez un peu que le sang est rouge pour vous être une fois coupé le doigt en épluchant vos patates, en râpant un rogaton de fromage. Au mieux, vous savez qu'il est rouge parce qu'on vous le dit et que vous le croyez rouge comme le gazon est vert et le ciel bleu. Jaune parfois, comme le sang des cocus. On cause, oui, comme on fait des cocottes dans un 36e bureau. Une basoche et un VRP qui parlent de sang. Ça fait drôle, n'est-ce pas, un petit parfum de caillots dans votre ordinaire, des caillots talés et mous comme des fruits gros mûrs. Plein les mains. Vous en avez plein partout dans vos bavardages sur mon compte, pardon, vos conversations, où l'on tue et l'on plaint plus que l'on ne ressuscite. Si vous êtes ensemble, c'est pour parler de mon père ou de moi, pour faire des circonlocutions, redire 100 fois les mêmes imbécilités. Moi, je crève de n'avoir pas d'enfant. Tout à l'heure, je longeais la rue sombre qui descend de la gare. Comme était fraîche la nuit et comme s'agitait la ferveur du vent, qui savait grimper, lui, caresser mes cuisses jusqu'à mes lèvres. Je me suis appuyé à un arbre pour offrir ma croupe au vent. J'attendais. Je voulais que son tourbillon vienne et pénètre mes entrailles pour les féconder, qu'il saisisse et ouvre mes genoux dans l'immense nombre de ses mains, qui me plie en avant comme une bête et pour que je sois un glaive brûlant qui viendrait de nulle part au milieu du vide. « Monsieur !» cria soudain Diane. « Oh, je vous prends à témoin que je n'aurais plus supporté le délire de cette fille qui abuse. Ah non, cette fois la mesure est plus que dépassée. « Taisez-vous, Madame Robertet !» hurla Claire un ton au-dessus et la saisissant aux avant-bras. Vous entendrez que je voulais l'amour du vent, que je voulais autre chose, que je me veux féconde et non plus objet de plaisir, pas plus d'ailleurs que de sa contemplation à lui, là. Vous entendrez que j'ai tué André, oui, que je lui ai tiré 2 balles dans son crâne, pourri intellectuel pêlé, que je l'ai bousillé, pauvre type. Il était tellement transparent qu'il n'a pas senti. Quand j'ai visé, il a rigolé, ce crétin fini, achevé, terminé. Non, il n'a pas senti le feu du bronze lui traverser la cervelle. Oh, j'étais si heureuse qu'il crève que j'ai appelé Balou pour qu'il voie ça. Et le petit mot d'explication, j'en suis l'auteur. Diane se précipita vers la porte du salon avec l'intention de quitter la maison, d'échapper à la marée de ces mots sans suite apparente, mais qui disaient trop, hélas, bien que cet état douloureux de Claire était perpétué au-delà de ce que j'avais cru. Elle se jeta pour barrer à Diane le chemin de la porte d'entrée, tomba à genoux devant elle, la serra dans ses bras. « Maman, non, non, ne partez pas. Vous n'allez pas partir, c'est pas possible. Maman, Diane, je ne le veux pas. Oui, c'est moi qui ai tué André, vous comprenez? Ça ne pouvait pas durer. C'était plus possible, plus possible. Vous n'avez rien compris, rien. Aimez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Aimez-moi, vous aussi. Prise de violents sanglots, Claire s'affaissa sur le carrelage. Modiane et moi, nous l'avons relevée tant bien que mal et placée sur un canapé. Elle mit longtemps pour revenir à elle. Je l'ai prise enfin par la taille et emmenée chez moi, où elle voulut dormir quand je lui ai fait infuser une verveine. Ni Odiane ni moi n'avons plus parlé de cet aveu déchirant. Secret pesant. Claire a fermé de nouveau son cabinet pendant quelques mois. Elle désira encore m'accompagner toutes les fois que je suis parti en voyage. Aucune nouvelle crise n'apparut. Souvent, elle est retournée voir Odiane, qui a su la recevoir avec plus d'affection après avoir passé l'éponge, comme on dit. Et depuis le mois de septembre de l'année dernière, elle a repris le cours de sa vie, boulevard Voltaire, et elle m'a demandé si je voulais l'épouser. J'ai senti là un petit coup d'Odiane. Malgré ma cinquantaine qui approche, j'ai l'habitude de l'indépendance. Claire est la fille d'Adrien. Je n'ai aucune envie de répéter l'expérience de mon vieil ami. Chapitre 10 et dernier. Je suis passé par Blois pour aller en vacances avec Yves aux Sables-d'Olonne. C'est là que, depuis 3 semaines, sans prendre beaucoup de distractions, j'écris le récit de ces rencontres qui ont tenu tant de place dans ma vie ces dernières années. Ces pages, oh, s'ils veulent bien les lire, seront mon petit livre d'histoire. Il y a quelques jours, donc, j'ai revu Odiane Robernet à Blois. Elle m'avait invité à m'arrêter dans la maison de ses parents, déjà bien âgés. Ce furent des moments paisibles pendant lesquels nous nous sommes rappelés des choses du passé. Sur les bords de la Loire, j'ai respiré l'air tempéré de la campagne et des fleurs d'été. Le souvenir d'Adrien était pour moi partout. J'ai refusé de dormir chez le Robernet qui voulait me donner la chambre d'Adrien. La seule idée d'occuper le lit où Odiane vint auprès de lui pour se glisser dans ses bras avant de le prendre tout à elle ne faisait pas peur, mais aurait désacralisé ce lieu que je ne voulais pas même voir, car l'ancien fétichisme d'Adrien devenait mien dans cette maison. À la longue, l'amitié de l'un s'incarne dans l'autre. Yves Barberolles est entré à l'école polytechnique. La vie de ses parents et les allées de sa sœur lui ont enlevé, me dit-il parfois, toute velléité d'entrer en amour comme on entre en religion. Il vient à l'instant de me quitter pour aller rejoindre les amis au tennis. Ma mère, oh oui, bien sûr, j'ai une mère, parce qu'il faut bien en avoir une. Mais Balou, tu es mon père et ma mère, parce que tu m'as toujours fait sentir, même si c'est faux, que je ne te devais rien. C'est ça qui est bien, tu comprends? Ce sont les parents qui devraient nous remercier d'être leurs enfants. Leurs enfants. Quelle connerie, ce possessif! Tu viens me chercher vers 5h30 chez Juliette, d'accord? D'accord, messire Roméo. Astuce facile, et en tenue, s'il te plaît, car avant le soleil rasant, nous échangerons les dernières balles. Dis donc, tu m'as envoyé de sacrées patates la dernière fois. Allons, Yves, soyons sérieux. Tu sais que je ne cours plus vite et que ma vue baisse. Mais très bon pour le coup droit. Yves, je voudrais. Oui, ma sœur te tient les basques. Je suis au parfum puisque c'est toi qui me l'as dit. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Avec son cabinet, tu ne l'aurais pas sans cesse dans les jambes. Va, Balou, je te la donne. Ce sera mon maigre cadeau. Mais si elle te fait un moutard, c'est pas moi qui vais lui sucrer la tarte ou lui chauffer ses biberons. Yves, enfin! Il est 5 heures. Yves ressemble furieusement à sa mère. Modiane revient lentement dans mes images. Il y a quelques jours, donc, je suis allé avec elle pour nous baigner au bord de la Loire. Depuis la maison Robertet, on devait longer un petit chemin de campagne. J'ai vu que sa main, marquée par les premières atteintes de l'âge où tout devient plus flou, que sa main passait légère sur les pointes aiguës de l'herbe, caressant l'image rude de l'homme en survolant les symboles irritants. Parfois, nous parlions de tout et de rien. L'image d'Adrien ne me quittait pas. Nous avons suivi quelques sillons peu profonds, laissés par des tracteurs pendant les dernières pluies. Les parfums étaient ceux des vignes faisant leur travail dans le soleil vers la fin de l'après-midi. Des sauterelles croisaient notre marche lente ou silencieuse, comme si nous n'avions pas voulu donner du mouvement à quelque chose de fixé pour l'éternité. Nous arrivâmes à une petite plage en demi-cercle. Je la reconnus tout de suite sans l'avoir jamais vue. Du sable. On s'assit sans rien dire, peut-être pour mieux goûter le plaisir du miroir. Derrière nous, j'écoutais le bavardage des trembles et des peupliers d'Italie. Il faisait bon. Odiane avait un brin de flouve odorante entre ses lèvres, des regards lointains qui semblaient saisir un au-delà vécu dans cet endroit où l'émotion me saisit. Le destin absurde de mon vieil Adrien avait ici commencé sa course folle. Mais Odiane, elle y revivait peut-être des appels, des découvertes, la pose qu'elle avait prise autrefois dans cette anse de la Loire et dont elle n'avait pas alors su mesurer les conséquences. Je la vis appuyer son menton sur ses genoux repliés. Elle avait ainsi une allure de femelle fauve, que d'interminables affûts ont fatigué, mais qu'une proie de passage peut encore faire frémir. « Vous épouserez Claire ?»« Oh, sûrement pas, » répondis-je surpris. « Je trouve étrange votre question, vous qui aimez vivre pour vivre et sans savoir, sans épousailles. » « Faites-lui un enfant, comme j'en ai fait un pour Adrien. » C'est un peu emmerdant, certes. Vous plaisantez, je n'en ai plus l'âge ni de pouponner ni d'encaisser les brusqueries d'adolescent. Elle vous aime, chaque fois que je la vois, elle me le répète. Mais le passé qu'il y a entre elle et moi n'est pas celui que vous partagiez avec Adrien. Je ne veux pas d'un amour par reconnaissance. Avec le temps, elle finira par trouver une âme sœur. « Allez, je la conseillerais, oui, mais quant à en faire une épouse, il y a là un Rubicon que je me refuse à franchir. Non seulement c'est pour moi une évidence, et je l'en dissuaderai. Ce sera pour moi un devoir, à défaut d'une fuite aux abris. Bon, vous ne voulez pas me répondre. Alors, on va se baigner ?»« Non, dame Odiane, vraiment. » Je vous regarde, mais j'ai appris que l'eau douce a la caresse bien plus dangereuse que la mer. Eh bien, moi, je me baigne. Songez, mon bon monsieur, songez. Douce ou pas, cette eau est mienne. Vous savez que j'en ai souvent arrosé Adrien. Pas beau de tordre le nez quand la volupté pourrait être insolente. Avoir de beaux restes dit assez que l'on a vieilli. Son corps essayait de retrouver sa jeunesse avec sa plénitude. Son entrée dans l'eau fut comme un tableau italien de la Renaissance, l'esquisse d'une vision qu'elle tentait de se donner d'elle-même. Sa fidélité à ses gestes d'autrefois lui conservait de la raideur acide, une spontanéité gauche, comme en ont tous les 20 ans. Non, Adrienne ne pouvait rien saisir, pas plus que moi, chez cette femme, de continuer à l'échapper. Et cette pensée faisait revivre en moi le récit d'Adrien, son visage, sa voix si enveloppante. Dans le soleil beaucoup plus orangé, Odiane sortit du fleuve. Son corps, que cuivraient les rayons rasants sous les gouttes de la Loire, jouait avec mes yeux. Oh, si j'avais été poète ou quelque écrivain romantique, j'aurais écrit qu'elle s'était mise à vouloir un instant ruisseler de rubis. Aujourd'hui, 21 décembre. Je ne pensais pas que 5 mois après ces longues notes que j'ai continué de rédiger en août au sable, j'aurais à écrire ces pages. Le 15 novembre, j'ai eu la stupéfaction de trouver dans mon courrier le message que je retranscris. Sorrente, 20 octobre. Très cher ami, ces derniers mois m'ont été difficiles. Madeleine Rochette vient de mourir d'un cancer généralisé. Mes raisons de demeurer à Sorrente se sont envolées avec elle, mais celles de revenir en France sont d'une autre nature. Voici que la France me manque avec votre amitié. Votre amitié si vraie que je ne pourrai jamais m'en acquitter. Et puis vous savez aussi que je suis un homme sur lequel on ne peut pas compter. Sur ce point, je suis amplement votre débiteur. Peu importe, je reviens. Je sais que j'essuierai des montagnes de reproches. Je les recevrai, surtout de vous, parce que je sais mon égoïsme inexcusable. Tous les autres doivent m'en vouloir peu ou prou, et avec leur raison, ne le niez pas. Je prendrai l'avion à Rome. Aurez-vous le cœur, encore, de venir me chercher à Orly le 10 décembre prochain? Malgré les apaisements que j'ai trouvés dans ma fuite en avant, je n'ai songé qu'à moi, chose que seul un grand ami pouvait comprendre. Adrien Barberolle. J'ai aussitôt télégraphié à Adrien que je serais à Orly pour l'accueillir et que sa maison serait prête à le recevoir. Je n'en ai rien dit à personne. Avec chacun, il réglerait son problème comme il l'entendrait. Le monde des affaires et mon habitude des relations m'ont entraîné à garder un silence prudent avant un dénouement. Je suis donc allé dans le grand hall d'Orly pour attendre et retrouver mon vieil ami. Les premiers voyageurs passèrent. Adrien me fit signe. Malgré les années, il était à peine changé. Il poussait un chariot avec 2 valises et un gros sac de voyage. Nous avons chargé ma voiture et je l'ai reconduit chez lui dans le plaisir des retrouvailles. « Très cher ami, me dit-il dans son entrée, vous avoir donné mon amitié totale est peut-être le seul acte de ma vie dans lequel je ne me suis pas égaré. Dimanche prochain, puis-je vous attendre à déjeuner avec Yves et Claire ? Volontiers, je vais les prévenir que vous êtes enfin de retour. Je viendrai avec eux. Ils sont presque devenus mes enfants. »